merci à vous qui nous écoutez. Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le point de l'actualité avec vous, Nadia Bencher. Au sommaire de cette édition, le Hamas a salué ce mardi la déclaration publiée hier par près de 20 pays. Ils y condamnent les mesures prises par Israël pour renforcer son contrôle sur la Cisjordanie occupée. L'organisation appelle à des sanctions contre Israël. L'ambassadeur des États-Unis, Charles Kouchner, ne s'est pas présenté hier soir à sa convocation au ministère des Affaires étrangères. Paris a décidé de révoquer l'accès direct du diplomate américain au gouvernement français. Notre dossier du jour, 4 ans, jour pour jour, que la guerre en Ukraine a commencé. Volodymyr Zelensky a affirmé à l'occasion de cet anniversaire que Poutine avait échoué à prendre le contrôle du pays. L'occasion de revenir sur ce conflit qui a bouleversé les équilibres régionaux et internationaux. Et puis nous reviendrons avec le général Dominique Trinquant sur l'impact de ce conflit sur la France. Bonjour à tous. Le Hamas a salué aujourd'hui la condamnation par 20 pays des nouvelles mesures israéliennes en Cisjordanie, du Brésil à l'Arabie Saoudite. Ils ont dénoncé une stratégie visant à poursuivre une annexion de facto. L'organisation active dans la bande de Gaza a appelé à des sanctions dissuasives contre le gouvernement israélien. En Syrie, les États-Unis poursuivent leur retrait militaire. Il devrait être total d'ici un mois, alors que 4 membres des forces de sécurité syriennes ont été tués hier lundi dans une attaque revendiquée par l'organisation État islamique. L'Iran a averti qu'il répondrait avec force à toute attaque américaine après les menaces du président Donald Trump, alors que se préparent de nouvelles négociations à Genève. Washington a ordonné l'évacuation du personnel non essentiel de son ambassade à Beyrouth. L'Iran qui met en garde ses étudiants alors que des rassemblements pro et anti-gouvernementales ont eu lieu dans plusieurs universités. Les autorités ont affirmé que les lignes rouges ne devaient pas être franchies. En Irak, Nouri al-Maliki, candidat au poste de Premier ministre, affirme qu'il ne se retirera pas malgré les menaces de Donald Trump. Il se dit attaché au lien avec Washington, promet de protéger les missions diplomatiques et défend un monopole des armes par l'État tout en assumant sa relation avec l'Iran. À Washington, s'est ouverte la troisième session de négociation autour du projet d'autonomie au Sahara occidental. C'est dans le cadre d'une initiative visant à rapprocher les parties concernées. Les nouveaux droits de douane mondiaux de 10% voulus par le président américain Donald Trump sont entrés en vigueur aujourd'hui. Ils interviennent dans la foulée du camouflet infligé à son administration par la Cour suprême la semaine dernière, qui avait annulé ses droits de douane indiscriminés. Au Mexique, 10 000 soldats ont été déployés dans l'ouest du pays après une vague de violences consécutives à la mort d'un important chef de cartel faisant 74 morts. La présidente Claudia Sheinbaum a indiqué que le calme était revenu dans le pays. La France a annoncé que l'ambassadeur américain à Paris, Charles Kouchner, ne s'était pas présenté à sa convocation au ministère des Affaires étrangères hier soir. Elle faisait suite aux déclarations de l'administration américaine qui avait dit surveiller l'extrémisme de gauche en France. Jean-Noël Barrot avait dit n'avoir aucune leçon à recevoir de l'international réactionnaire. Il aurait demandé que l'ambassadeur ne puisse plus communiquer avec les ministres français. Et puis enfin, l'eau continue de baisser doucement dans l'ouest de la France ce mardi, laissant entrevoir un retour à la normale progressif pour certaines zones touchées. La Loire-Atlantique a été redescendue en vigilance orange. La Charente-Maritime et le Maine-et-Loire restent ce mardi en vigilance rouge. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre écoute. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Dossier du jour à présent, le 24 février 2022, une offensive russe de grande ampleur contre l'Ukraine marquée le début d'une guerre dévastatrice qui a fait des centaines de milliers de morts et de blessés. 4 ans plus tard, ce conflit toujours en cours a profondément bouleversé les équilibres régionaux et internationaux. Il constitue la plus grande guerre sur le continent européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Artsakh. Retour avec vous, Marc Aurel Barès, sur l'ampleur des pertes humaines et les conséquences humanitaires de cette guerre.
Oui, Nadia, après 4 années de combat, des centres de recherche occidentaux estiment que le total des pertes militaires, morts, blessés, disparus, des deux camps avoisine les 2 millions de personnes. Le camp russe aurait à lui seul subi environ 1,2 million de pertes humaines depuis le début du conflit. Sur le plan civil, des rapports des Nations Unies font état de milliers de civils tués et de dizaines de milliers de blessés, avec une intensification notable des frappes de missiles et de drones en 2024 et 2025. Ces chiffres illustrent l'un des conflits les plus violents qu'ait connu l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La guerre a également provoqué l'une des plus importantes vagues de déplacements en Europe contemporaine. Selon des estimations internationales récentes, près de 10 millions d'Ukrainiens ont été contraints de quitter leur foyer, soit à l'intérieur du pays, soit en cherchant refuge à l'étranger, soit environ un quart de la population d'avant-guerre. Ce déplacement massif a entraîné des profondes conséquences sociales, dislocation des familles, pression accrue sur les services publics des pays d'accueil et modification de la structure démographique de l'Ukraine, notamment dans les régions orientales et méridionales, les plus touchées par les combats.
Quels impacts, Marc Aurel, la guerre a-t-elle eu sur l'économie et les infrastructures ?
Malgré le maintien du fonctionnement des institutions de l'État ukrainien, l'économie du pays a subi de lourdes pertes. En 2025, le produit intérieur brut demeure inférieur d'environ 21% à son niveau d'avant-guerre. Plus de 70% des dépenses publiques ukrainiennes seraient consacrées au secteur de la défense et de la sécurité, ce qui limite fortement, bien sûr, la capacité de l'État à financer le développement et la reconstruction. Des milliers d'installations industrielles, de centrales énergétiques, de réseaux électriques, de routes et de ponts ont été endommagés ou détruits, faisant de la reconstruction de l'Ukraine l'un des plus grands défis contemporains en Europe. La Russie, de son côté, bien qu'ayant bénéficié d'un certain soutien grâce à ses revenus énergétiques, fait face à un ralentissement économique, un creusement du déficit budgétaire sous l'effet combiné des sanctions occidentales et de la baisse des revenus pétroliers.
Quelle est la situation maintenant, la situation militaire et politique après 4 ans de guerre ?
La Russie contrôle environ 1/5 du territoire ukrainien, y compris la Crimée, ainsi que de vastes zones de l'est et du sud du pays. Les lignes de front sont marquées par une guerre d'usure, avec des frappes de missiles et de drones quasi quotidiennes. Sur le plan politique, la guerre a renforcé le nationalisme dans les deux pays, approfondi la fracture entre la Russie et l'Occident, et poussé plusieurs États européens à accroître leurs dépenses militaires et à renforcer leurs alliances de défense.
Merci Marc Aurel. 4 ans de guerre, donc 4 ans de combat, de destruction et un conflit qui continue de peser sur l'Europe. Mais pour beaucoup de Français, la guerre en Ukraine paraît parfois lointaine. Il y a 4 ans, donc, jour pour jour, la Russie lançait son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Depuis, l'équilibre mondial a été profondément bouleversé. Alors aujourd'hui, concrètement, en quoi ce conflit concerne-t-il directement les Français ? Élément de réponse avec le général Dominique Trinquant, spécialiste des questions internationales.
Eh bien, il concerne les citoyens en France parce que pour M. Poutine, il est important de réduire la capacité de défense de l'Europe au sens large. Et cette capacité de résistance, elle repose d'abord sur la capacité des citoyens à vouloir rester libres. Et je pense que c'est un sujet qui doit être plus souvent mis en avant vis-à-vis de nos citoyens, dont je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre propos. Moi, je constate que dans les sondages, 70% des Français sont en soutien de l'Ukraine et comprennent bien que la dictature russe ne s'adresse pas seulement à l'Ukraine, mais également à la liberté et à la démocratie des pays européens. Donc je pense qu'il faut vraiment construire là-dessus. Il n'y aura pas de char russe sur les Champs-Élysées demain, c'est certain, mais en revanche, nous sommes attaqués dans la désinformation ou dans le cyber tous les jours.
Et justement, il faudrait pour cela former, si je puis dire, des cyber-soldats, c'est aussi le but de ce service militaire version 21e siècle promis par Emmanuel Macron.
Alors de façon plus globale, oui, mais il ne faudrait pas, il faut, et c'est du présent. Aujourd'hui, dans les armées, il y a un commandement du cyberespace, on recrute énormément de candidats à ces postes-là, mais ça ne concerne pas que les militaires, hein. Ça concerne aussi les civils. Nous avons en France Viginium, qui est un organisme qui nous permet de détecter les attaques qui viennent de l'extérieur. Et donc, ça concerne bien sûr les militaires, mais aussi les civils, parce que c'est notre vie de tous les jours qui est en danger. Et moi, qui ai travaillé pendant un petit moment comme auditeur au Forum Cyber, j'ai été frappé par le nombre de jeunes qui s'engagent de façon totalement volontaire pour défendre notre pays contre ces attaques.
Le général Dominique Trinquant, spécialiste des questions internationales, au micro de François-Xavier de Calonne. C'est la fin de cette édition. Merci d'y avoir prêté attention. Merci à Raymond Jouan pour la réalisation. Excellente suite de programme sur Radio Orient.